Le débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Demain, cela fera 50 ans. 50 ans, eh bien que la première grande affaire d'espionnage aux conséquences retentissantes a éclaté, c'était le Watergate. Et c'était le 17 juin 1972. Alors 50 ans après, l'espionnage semble faire partie de notre vie, entre cyberattaques massives que l'on peut observer et plus près de nous, eh bien, toutes les données qui peuvent être récoltées sur notre téléphone portable, par exemple. Alors quelle est la réalité de la surveillance aujourd'hui ? Ce phénomène est-il exponentiel ? Peut-on s'en protéger ? Ou bien sommes-nous condamnés à être tout simplement espionnés ? Eh bien, c'est notre débat ce soir. Soyez les bienvenus.
RFI.
Et pour répondre à ces questions, nos trois invités d'abord à mes côtés en studio, Reina Stamboliska, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes experte en cybersécurité et en diplomatie numérique et vous êtes l'auteur de l'ouvrage « La face cachée d'Internet ». Face à vous, nos deux autres invités sont en ligne. Mathieu Quinge, bonsoir.
Bonsoir.
Enseignant-chercheur à l'INSA Lyon, qui est l'Institut National des Sciences Appliquées, et à l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique, spécialisé dans la protection des données personnelles. Avec vous, on verra comment justement se protéger de cet espionnage potentiel. Lucien Castex, notre troisième invité. Bonsoir Lucien Castex.
Bonsoir.
Représentant pour les affaires publiques de l'AFNIC, l'Association française pour le nommage d'Internet en coopération, et membre du conseil d'administration du think tank Renaissance numérique qui concerne la transition numérique. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. On va directement rentrer dans le vif de ce débat. Reina Stamboliska, quelle est la réalité de la surveillance aujourd'hui ? Est-ce que, oui, nous sommes tous espionnés ?
La réponse simple, c'est oui. Là où les choses commencent à devenir un peu plus compliquées, plus denses, c'est par qui ? Alors, on a bien sûr un aspect, on va dire, étatique, où bien sûr, il y a des États, des institutions qui souhaitent savoir qui vous êtes, ce que vous faites, surtout quand vous faites des choses qui sont potentiellement punissables par la loi. Mais vous avez aussi, par ailleurs, certains États pas particulièrement démocratiques qui ne sont pas spécialement fans du fait que leurs citoyens peuvent contester ce qu'ils font. Et après, vous avez aussi l'aspect privé, on va dire, qui concerne à la fois les entreprises. On a tous et toutes un téléphone, Google, Apple, etc., pour ne pas les nommer, ce qu'on appelle les GAFAM, collectent énormément de données sur nous pour nous envoyer notamment des publicités, de plus en plus ciblées, de plus en plus invasives, etc. Et après, vous avez également un aspect qui est pas nécessairement très, on va dire, discuté actuellement, mais qui est aussi la surveillance qu'on fait, nous, en tant qu'individus, vis-à-vis des individus dans notre entourage. Les parents qui vont en fait s'assurer en permanence que leurs enfants sont là où ils disent qu'ils sont, les forçant à activer la géolocalisation sur les téléphones, etc. etc. Les conjoints, conjointes un peu abusifs, on va dire, parfois, enfin, c'est souvent, vont imposer à leur moitié, pareil, de leur dire à tout moment où elle est. Voilà, on a aussi
ça peut être récupéré, c'est ça que vous voulez dire ?
Oui, bien sûr, vous pouvez partager
par les géants d'Internet
aussi, mais aussi par des individus tels que, imaginons, moi je veux savoir si vous serez à l'heure pour l'émission ce soir, et en fait je vous demande de partager votre géolocalisation en temps réel avec moi, et donc sur mon téléphone je peux regarder où vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes à côté du métro ou pas ?
Mais c'est vous qui aurez l'information. Est-ce que d'autres personnes peuvent l'avoir ? Parce que c'est ça la question de l'espionnage.
Sûr, toujours d'autres peuvent l'avoir aussi. Les gens qui ont créé l'application, les gens qui vous fournissent votre téléphone, toutes les personnes avec qui ces gens-là partagent, que vous le sachiez ou pas, parce que vous avez aussi, quand on vous dit qu'il faut lire les conditions générales d'utilisation, ça c'est quand on clique, oui j'ai lu, c'est le plus grand mensonge qu'on ait fait, qu'on fait tous les jours. Donc tous les tiers en fait avec qui ces gens-là vont partager les données qu'ils collectent sur vous. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve avec ce qu'on appelle des brokers, des gens qui revendent des données à des régies publicitaires qui, elles, revendent à d'autres, etc. etc., etc.
Concrètement, pour poursuivre votre exemple, justement, ma géolocalisation, je la partage avec vous. Ça peut aller jusqu'où ?
Ça peut aller très loin en fonction, en fait, de qui veut l'avoir. Prenons un exemple, on va dire, qui a fait un peu l'actualité récemment suite aux fuites aux États-Unis sur les discussions autour du statut du droit à l'avortement. Et en fait, il y a quelque chose qui est extrêmement dangereux, on va dire, notamment pour les femmes aux États-Unis. Il y a différentes applis, notamment par exemple des applis de suivi de règles ou des choses comme ça, qui collectent plein de données sur vous, vos déplacements, etc. Et ces données-là, vu que en fait, des tiers peuvent les avoir facilement, par la revente, par le partage, par les gens qui ont fait l'appli. En fait, si je suis une association anti-avortement, je peux aussi acheter ces données-là. Et donc, par exemple, savoir où vous habitez, savoir à quel moment vous êtes rendu au planning familial, par exemple. Voilà, plein de choses. Et donc, c'est là où je vous disais, on a ce problème-là de maîtrise de ce qui est fait des données. Et donc, c'est là où le sujet espionnage, ou plutôt surveillance, en fait... du coup, il devient beaucoup plus tentaculaire, si on veut le dire comme ça. Et en fait, on dépasse vraiment le côté un peu d'Épinal, l'image d'Épinal qu'on peut avoir. Alors, c'est l'État, il y a des gens très, très secrets que vous ne connaissez pas, qui veulent absolument vous mettre en taule ou je ne sais pas quoi. Là, on est dans « chacun peut espionner n'importe qui ».
C'est multiple.
Et en fait, ce que nous, on peut faire contre ça, mais je ne vais pas spoiler...
On va en parler.
Voilà, ça devient exponentiel en termes de complexité.
Donc, en tout cas, le premier outil de l'espionnage, c'est le téléphone portable. Vous citiez les applications.
Oui, ce sont des applications, c'est votre micro. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de... si je veux espionner le PDG d'une grande société, je n'ai pas besoin de faire du James Bond à moindre frais, à moindre budget, pour essayer de mettre un micro dans le bureau. J'ai qu'en fait me débrouiller pour avoir accès au microphone de son téléphone portable.
C'est pas donné à tout le monde, cependant.
Non, mais après, pas tout le monde nécessairement peut avoir envie ou se discipliner pour aller espionner, je ne sais pas moi, le PDG de Renault. Ou, voilà.
Le scandale Pegasus a montré que c'était possible.
Voilà. Donc, et Pegasus, c'est
un logiciel qui s'est introduit dans les téléphones de dirigeants, de journalistes, d'opposants dans plusieurs pays du monde.
Alors Pegasus, c'est un cas vraiment intéressant et vraiment particulier parce que ce sont des entités, si vous voulez, qui se fournissent auprès d'un éditeur privé. Donc la société NSO Group, qui édite effectivement un logiciel dont la manière de s'introduire sur les téléphones des gens est très, on va dire, est cachée. En fait, elle est transparente, vous ne vous en rendez pas compte. Et là, les motivations, en fait, ça c'est l'autre sujet, c'est pourquoi on veut savoir ce que font les gens, pourquoi on veut savoir ce qu'ils cachent. Ça, c'est l'autre sujet. Là, jusqu'à présent, on a surtout parlé des moyens. Comment je fais ça? Mais pourquoi je le fais, c'est encore un autre sujet qui est effectivement extrêmement important, notamment lorsqu'on est face à des situations de déséquilibre telles que moi, individu vis-à-vis de l'État, vis-à-vis d'une grande entreprise ou un État vis-à-vis d'un groupe de dissidents, un État répressif vis-à-vis de groupes de dissidents, etc. Voilà. Mais ça, je veux laisser aussi la parole à mes... À mes collègues.
Mathieu Quinche, sommes-nous espionnés? Sommes-nous surveillés? Oui, a dit sans réserve Rena Stamboliska, et son exposé va effectivement dans ce sens-là. Est-ce que vous partagez cet avis sans réserve?
Oui, tout à fait, c'est vraiment le cas. Et je voudrais revenir sur cette distinction qu'elle a faite entre le traçage, la surveillance qui est faite par les États et celle qui est faite par les acteurs privés. Donc c'est vrai qu'on avait cette image d'Épinal, comme vous avez dit, du Big Brother, l'État qui veut surveiller, contrôler la population. Mais on a aujourd'hui ces acteurs privés qui ont déployé une véritable toile de surveillance, donc que ce soit sur Internet, sur les sites web sur lesquels on va se rendre, ou alors au sein de nos smartphones, nos appareils connectés. Et donc cette toile, elle est plutôt là à des fins commerciales, donc comme on le disait tout à l'heure, pour collecter, pour profiler les utilisateurs, et puis après pour les cibler avec des publicités extrêmement bien ajustées. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que toute cette toile de surveillance qui existe et qui est utilisée à des fins commerciales, elle peut être très facilement, et elle l'est d'ailleurs, utilisée par les États pour tracer les personnes. Donc, ils n'ont même plus besoin de déployer leur propre infrastructure de surveillance, puisque des acteurs privés commencent déjà à mettre tout un tas de traceurs sur tous les sites qu'on va visiter et dans les applications mobiles. Donc, c'est vraiment un danger. En plus du traçage du profilage,
ça va de pair, finalement.
On peut se méfier. Voilà, les deux vont ensemble. Et on se rend compte que l'explosion du traçage à des fins commerciales facilite en certaine sorte la surveillance par des acteurs plutôt étatiques.
Mais c'est pas répréhensible, ça, justement ? Comment réprimer ?
Alors oui, on a des réglementations, donc je ne suis pas juriste, mais on a quand même, en tout cas en Europe, on a le RGPD, donc qui est une réglementation européenne qui est là pour garantir une certaine protection des données personnelles, donc qui est entrée en œuvre il y a quelques années, et donc c'est elle en particulier qui a forcé, par exemple, qui était une de ses conséquences, c'était l'apparition de ces bannières de cookies, donc qui nous demandent si on accepte ou pas, donc ça c'est une des conséquences, puisqu'on va pousser vers plus d'informations et plus de consentement vis-à-vis des utilisateurs. Bien qu'il y ait cette loi pour protéger les citoyens, en tout cas en Europe, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'acteurs qui passent outre ces lois, donc soit ouvertement, donc des acteurs, des grands acteurs comme Google, Facebook, donc qui se font sanctionner régulièrement, ou alors des acteurs qui sont plus petits et qui, voilà, qui sont un peu noyés dans la masse. Et donc on a des autorités de protection qui essayent de mener des enquêtes, mais qui ont des moyens qui sont assez limités, qui font qu'il y a beaucoup encore de pratiques qui sont limite de la légalité, ou si ce n'est vraiment totalement illégal.
Voilà, Google régulièrement sanctionné, vous l'avez dit, et vous n'êtes pas juriste, vous l'avez dit également, mais jusqu'où cela peut-il aller ? Est-ce qu'à un moment, justement, ces activités-là ne peuvent pas être réprimées définitivement ?
Alors, je pense qu'il y a définitivement, je pense que c'est compliqué. Alors, je pense qu'il y a des moyens, en fait, il y a des moyens juridiques, donc avec ce règlement, et des moyens techniques de l'autre côté. Donc, sur les moyens juridiques, donc ça va toujours être un problème d'avoir suffisamment de personnes qui sont en mesure de mener ces enquêtes et de trouver ces pratiques illégales. Donc ça, je pense que c'est un peu illusoire de dire qu'on pourra tout empêcher. Mais en tout cas, je pense qu'il y a besoin d'avoir plus d'efforts, plus de moyens donnés à des entités comme la CNIL et puis d'autres similaires en Europe pour mettre un peu pour faire un peu le ménage dans un certain nombre de pratiques. Mais on peut aussi miser sur des mesures techniques qui vont nous permettre de protéger mieux nos données. Donc ça peut être des navigateurs web qui intègrent un certain nombre de mécanismes de protection, donc ils vont bloquer le fonctionnement des traceurs qui sont présents sur certains sites.
Alors on va parler sur comment justement mieux se protéger, et vous avez publié en ce sens-là un article intéressant, mais je voudrais qu'on entende enfin Lucien Castex pour savoir si vous aussi vous partagez aussi unanimement l'avis de nos autres invités. Est-ce que nous sommes espionnés ?
Alors,
oui ou non.
Merci. Effectivement, on est espionné dans le sens qui a été décrit par mes collègues. Il y a une image d'Épinal de l'espionnage, peut-être qui est issue des anciens films d'espionnage, effectivement, du James Bond qui pose des micros, de l'État qui cherche à acquérir une information. Et on arrive à cette surveillance. J'ajouterais simplement, pour ne pas répéter ce qui a été dit, en fin de compte, qu'il y a également jusqu'à la mesure de soi-même. Avec l'Internet des objets, on met par exemple un bracelet connecté, une montre, avec la domotique, on installe des dispositifs dans son domicile, et en fin de compte, on crée ensuite des nouveaux jeux de données, lesquels peuvent potentiellement être détournés, utilisés, et sont tout à fait utiles, et parfois des données extrêmement, extrêmement sensibles. Ça a été dit également, il y a dans chaque poche maintenant un téléphone portable avec des outils qui permettent cette surveillance, avec une caméra, avec un micro et d'autres dispositifs du même ordre. Donc il y a cette capacité de surveillance, il y a cette mesure de soi avec un rapprochement du corps, avec les montres, avec les objets qui se rapprochent du quotidien. Si j'en viens peut-être aux moyens de se protéger, il y a des moyens de se protéger. Peut-être que le premier, c'est d'avoir conscience des données qu'on utilise, de l'endroit potentiellement où vont ces données, de ce que sont ces données. Bien entendu, il y a le RGPD qui a déjà été mentionné, qui est un texte qui a permis sans doute une prise de conscience. Son entrée en vigueur en 2018 a marqué cette prise de conscience.
Et règlement général de protection des données. Voilà, j'explique ce qu'est RGPD. Tout règlement général de protection des données.
Tout à fait. Donc, il est entré en application en 2018, et en fait, on a pris connaissance pris conscience de ce qu'était une donnée personnelle, c'est-à-dire de toute information qui se rapporte à une personne physique qui est identifiée ou identifiable directement ou indirectement. C'est-à-dire c'est votre nom, c'est votre prénom, bien sûr c'est votre adresse, mais aussi des recoupements de données, un numéro d'identification client, votre numéro d'étudiant et ainsi de suite. C'est-à-dire énormément de choses, jusqu'à des données extrêmement sensibles, des données de préférence, mais aussi potentiellement des données génétiques, des données de santé, des données sociales, des données culturelles. Ça peut être de la voix, ça peut être de l'image, c'est extrêmement, extrêmement large. Donc il y a ce premier point.
Mmh. Mais pardon, mais sur ce point-là, je voudrais vous faire réagir parce que vous avez entendu Mathieu Quinche qui disait qu'il y a certes ce RGPD, mais ça n'empêche pas Google et consorts d'échapper aux règles.
Alors il y a le RGPD sans doute a besoin d'acquérir en maturité. On mentionnait tout à l'heure les barrières de cookies. Les barrières de cookies, effectivement, vous les avez, vous vous connectez sur un site internet, vous refusez par exemple de partager des données, très bien, et vous accédez à un certain contenu. Vous revenez sur le même site, potentiellement, on vous redemande la même chose, vous naviguez sur Internet, vous avez en fait une forme de fatigue du consentement qu'on a pu observer. Cette récurrence permanente de nouvelles validations qui sont à demander. On voit également une certaine prégnance des conditions générales d'utilisation qui, comme Reina l'a dit, effectivement, sont souvent validées sans être lues, ce qui pose un certain nombre de difficultés, puisqu'effectivement, dans certains cas, elles permettent le partage d'informations avec un certain nombre de tiers.
Pardon, mais on ne peut pas imaginer que par défaut, les cookies soient désactivés pour justement éviter à chaque fois d'avoir à continuer sans accepter ou désactiver tous les cookies, qui fait que, comme vous dites, il y a une lassitude qui fait que finalement, on finit par les accepter, ces cookies, et donc être tracés.
Alors, tout à fait. Il y a un certain nombre d'outils qui peuvent s'ajouter au navigateur qui permettent, pour une part, d'aboutir à ce résultat. Il y a également un certain nombre en fait, de moyens de sécurisation qui peuvent s'y ajouter. J'en mentionnerai très rapidement deux pour ce qui est de la sécurisation des données. Quand vous naviguez sur Internet, vous utilisez ce qu'on appelle le protocole HTTP. Eh bien, on peut utiliser le protocole HTTPS, c'est-à-dire le petit cadenas que vous voyez quand vous vous connectez à des services sécurisés. Eh bien, dans ce cas-là, eh bien, les données qui sont échangées, effectivement, sont chiffrées, sont protégées de l'accès par un certain nombre d'intermédiaires. Et je citerai également le protocole, excusez l'acronyme, DOH, c'est-à-dire DNS over HTTPS, qui permet en fait de chiffrer les requêtes que vous envoyez quand vous accédez à un site Internet. Qu'est-ce que ça permet de faire ? Bien, ça permet simplement d'éviter ce qu'on appelle les attaques de l'homme du milieu qui intercepte votre requête et qui vous envoie là où peut-être vous n'avez pas envie d'aller. Vous allez théoriquement peut-être vous diriger vers votre banque et on vous dirige vers un site qui n'est pas du tout votre banque mais qui y ressemble fortement.
On a entendu ces astuces techniques justement pour échapper au traçage. Je vous relance Mathieu Quinche parce que vous avez publié un article où vous présentez justement des solutions pour protéger la vie privée des personnes. Il y a d'autres astuces entre guillemets que celles que vient de nous présenter Lucien Castex que vous pouvez nous développer pour justement fuir un peu cet espionnage, cette surveillance en tout cas.
Je pense que l'idée d'être déjà conscient de cette collecte de données, c'est déjà un bon début, puisque je pense qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui n'ont pas vraiment conscience de la quantité de données qui sont collectées, et surtout, comme on le disait tout à l'heure, la grande diversité des acteurs qui vont récupérer ces données et qui vont se les revendre, se les partager. Donc déjà, avoir premièrement conscience de ça, c'est un bon début. Et puis après, tous ces outils techniques, je pense à des navigateurs qui sont un peu plus respectueux de la vie privée que d'autres. Donc, je nommerais Firefox ou Brave. Et puis, au sein de ces navigateurs, on peut aussi installer des extensions qui permettent de bloquer, par exemple, les cookies et tout un tas de traceurs qui sont installés par des Facebook et consorts. Et puis, aussi sur les smartphones, regardez également sur les permissions lorsqu'on installe une application, avoir conscience et regarder clairement quelles sont les permissions qui sont demandées et puis se demander qu'est-ce que pourrait faire cette application avec ça, est-ce qu'elle en a réellement besoin. Ça, c'est vraiment des questions réelles. On peut aussi se passer parfois des applications. Donc, plutôt que d'installer l'application Facebook, pourquoi pas consulter directement Facebook à travers un navigateur web sur notre mobile. Donc là, on n'aura pas forcément une aisance d'utilisation, une qualité d'utilisation qui sera aussi bien qu'avec l'application qui serait installée. Mais en faisant de cette sorte, on va limiter en fait les possibilités que Facebook aura accéder à tout un tas de capteurs d'informations qui sont présentes sur notre smartphone, comme la géolocalisation, votre carnet d'adresses, la liste des implications qui sont installées. Et donc là, ça va limiter grandement la collecte des données. Et puis avoir une hygiène, j'ai envie de dire, ne pas cliquer sur tous les liens et puis faire attention, voilà, ne pas installer n'importe quelle application. Donc essayer d'être une frugalité en quelque sorte, en ayant conscience qu'il y a cette collecte potentiel qui est derrière et tout ce qui peut en découler.
Frugalité de partage de données, c'est un bon concept. Limiter la collecte des données, a dit Rena Stamboliska, ça veut dire que si on active toutes les fonctionnalités qu'il vient d'évoquer, Mathieu Quinche et précédemment Lucien Castex, on limite uniquement la collecte des données, on ne peut pas échapper à la surveillance. Sommes-nous condamnés à être espionnés? C'est la question qu'on pose ce soir.
C'est, j'aimerais bien revenir parce qu'il y avait plusieurs choses qui m'ont... Vous avez vu, parce que je suis en personne avec vous, vous avez vu que j'ai souri à différents moments. Et puis, on essaye de faire un débat. Jusqu'à présent, on est d'accord. Donc du coup, je vais essayer de faire un pas de côté. Pas juste pour qu'on puisse débattre, mais surtout pour, en fait, un peu, on va dire... sortir ou en tout cas me mettre un peu au-dessus de la discussion du comment, hein, des outils, pour un peu parler de modèle de menace. C'est-à-dire, en fait, moi, ce que j'estime qui n'est pas acceptable pour moi, pour vous, ça peut très bien en fait être acceptable. Si je demande ici à nous quatre, si on donne chacun, chacune notre définition de ce qu'est la vie privée, on va avoir quatre définitions différentes. Hein, pour vous, ça peut très bien être acceptable de partager votre taux d'imposition. Pour moi, par exemple, ça peut ne pas l'être.
On doit surtout avoir le choix.
Voilà. Et donc, et votre question tout à l'heure, qui était extrêmement, que j'ai trouvé en fait touchante de candeur, mais est-ce qu'on pourrait pas en fait par défaut interdire, en fait, refuser les cookies? C'est, vous avez touché là de doigt quelque chose qui est effectivement, on va dire, évident. Genre, mais pourquoi est-ce que je suis obligée de devoir choisir et après de me prendre la tête avec des machins dans tous les sens qui couvrent l'écran, etc.
Et qui fait qu'à la fin, on accepte.
Ça me dégoûte et j'accepte par défaut parce que juste, ça, j'en ai marre. Et en fait, là, on touche non seulement à l'aspect ma perception de ce qui est acceptable, mais aussi à l'aspect pourquoi on fait ce genre de captation massive de données. On l'a fait parce que ça nous ramène de l'argent. Et donc, quand on pose la question de « est-ce qu'on pourrait pas ?» En fait, juste par défaut, refuser les cookies, bien sûr qu'on pourrait. Sauf que ça mettrait à mal, en fait, tout un système de captation et donc de fructification, si vous voulez, financière, hein, sonnante et trébuchante, de données à caractère personnel qui, en fait, a fait le bonheur d'énormément de sociétés.
Ce qui veut dire, c'est que le modèle commercial de nombreuses sociétés fonctionne sur ce traçage-là.
Il est fait pour, en fait, mobiliser, fructifier, capitaliser vraiment sur ces données. Est-ce que je
Donc
peux
en faire... Donc, il y a un combat entre ça et le règlement.
En fait, le règlement, si vous voulez... Et par extension, en fait, touche à ces aspects-là. Donc, le RGPD, mais ce n'est pas le seul texte dans la vie, parce que là, on a quand même beaucoup parlé des données à caractère personnel. Il y a aussi les données, on va dire, plus stratégiques, qui ne sont pas nécessairement à caractère personnel. Ça peut être, je ne sais pas moi, les prévisions de GRT Gaz sur l'augmentation des prix du gaz sur les 6 prochains mois. Bon, étant donné la conjoncture géopolitique, ce sont des informations qui sont tout à fait intéressantes à avoir en avance. Donc, ce ne sont pas des informations à caractère personnel. Bon. Donc, pour revenir sur l'aspect données à caractère personnel, bien sûr, le RGPD, si vous voulez, ce que le RGPD fait, c'est surtout vous et nous informer des droits en fait, fondamentaux qu'on a. Et typiquement, le droit à l'information, à savoir ce qu'un acteur va faire des données que je lui confie, c'est un droit qui est conféré par le RGPD, qui était par ailleurs là dans la loi informatique et liberté avant, etc. Et c'est pour ça qu'on insiste et que j'essaye d'aller dans un truc un tout petit peu plus technique, sans pour autant saouler tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. Mais en fait, ça fait partie, ce genre de compréhension fait partie des fondamentaux. Je ne dis pas les basiques parce que ce n'est pas nécessairement simple, mais ce sont des fondamentaux en ce que ça nous permet en fait de savoir pas seulement quelles sont nos obligations, mais aussi quels sont nos droits. Et pour faire valoir mes droits, il faut bien que je les connaisse. Ce qui me ramène en fait à ma question de début, qui est de dire que en fait, on n'accepte pas tous et toutes les mêmes choses. J'ai déjà entendu des gens me dire « Mais qu'est-ce que tu viens m'embêter avec tes histoires de publicité ciblée ? Moi, je suis ravie de ne pas avoir à chercher. Quand je veux m'acheter des chaussures de tel genre ou de tel genre, en fait, bah, j'ai les pubs qui s'affichent devant moi, je clique, je m'achète mes chaussures. Je n'ai pas de temps à perdre à en chercher. » Est-ce que, en fait, cet usage-là, il est mieux, il est moins bien, il est plus condamnable, il est débile, il est absurde, il est... Vous voyez, et en fait, quand on parle de cette histoire d'être condamné à être surveillé, en fait, pas tout le monde le vit de cette façon-là.
Mais si, par exemple, je ne veux pas être surveillé, je ne veux qu'aucune de mes données soit recueillie, que ce que j'écris sur Internet ne laisse pas une trace.
Oui, c'est
impossible aujourd'hui.
Ça, c'est justement un vrai problème, et c'est effectivement là où on a la fracture entre... Moi, je rentre dans un café, je me mets au comptoir, je me pose au comptoir, je me prends un café et je lis, je parle, l'IBM, le Monde, n'importe ce qui est là. Les seules personnes qui ont vu ça, c'est le mec qui m'a servi le café et les gens qui étaient autour. Bon, quand je vais sur le site de l'IBM ou du Monde, bah, à peu près tous les publicitaires qui travaillent, toutes les régies, tous les traceurs possibles et imaginables qu'il y a sur les sites des médias, en fait, savent. Ce que j'ai lu, combien de temps j'ai passé sur quelle phrase, est-ce que j'ai partagé l'article à quelqu'un, donc est-ce que j'en ai parlé à quelqu'un, quelle partie m'a le plus marqué, etc., etc. Et donc, le fait de ne pas pouvoir, en fait, échapper à ça, le vrai problème, il est là. Mmh. Encore une fois, est-ce que pour vous et pour moi, en fait, cacher certaines choses, ce sont les mêmes choses qu'on veut cacher, ça, c'est un autre sujet. Mmh. Et la question, en fait, qui va se poser là, et tout ce que j'écoutais de ce qu'expliquaient mes collègues, ce sont pour moi des moyens, justement, de passer entre les gouttes. Et ce qui est un vrai souci, parce que, pour moi, en tout cas, dans le sens où ça ramène, en fait, énormément de sujets de société, à la responsabilité individuelle, qui est de dire, en fait, bah, ouais, faut que tu n'en acceptes pas ceci et cela, faut que tu arrêtes de télécharger des choses, etc. Mais pourquoi ? Est-ce que je peux pas faire comme tout le monde, avoir les mêmes usages que tout le monde et qu'on me fiche la paix ? Comment on fait ça ? Le RGPD, je suis pas convaincue, en fait, que son but dans la vie, on va dire, est de défaire des monopoles de captation de données. Donc là, on a, nous, en tant que citoyens, et là, je profite qu'on soit en période électorale, on a en fait des moyens d'agir qui sont en fait d'aller voir ces élus, qu'ils soient nationaux ou européens, et en fait de commencer à faire intervenir dans les choix de législation qui sont faits, parce que nous, on ne le fait pas. Par contre, vous inquiétez pas que d'autres le font.
Ouais. Je voudrais redistribuer la parole. Il ne nous reste plus qu'une minute, c'est passé très vite ce débat. Mathieu Quinche, vous êtes optimiste sur l'avenir, justement, concernant ces perspectives de continuer à être espionné ou pas, d'avoir le choix ou pas. C'est presque parti en débat philosophique, mais c'était très intéressant.
Je vais être assez pessimiste, hein, parce qu'on voit donc cette appétence pour les données de ces géants d'Internet. Et puis, en parallèle, on voit la multiplication des usages que l'on en fait. Donc, on en parlait tout à l'heure, donc tout ce qui est web, mobile, et puis aussi les objets connectés qu'on utilise pour se mesurer nous-mêmes. Et on en voit des capteurs qui sont de plus en plus omniprésents dans nos véhicules, dans notre domicile. Donc, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire si on veut vraiment que cette collecte de données aille dans le sens du moins.
Et on entend votre pessimisme, en tout cas qui est partagé, je pense, par nos deux autres invités, comme quoi nous sommes espionnés et nous allons continuer à être espionnés. Et je renvoie à l'article que vous avez écrit, les objets connectés aux objets communicants. Merci Mathieu Quinche, enseignant-chercheur à l'INSA Lyon et à l'INRIA, spécialiste dans la protection des données personnelles. Merci Réna Stamboliska, experte en cybersécurité et diplomatie numérique, auteur de La face cachée d'Internet. Et merci à Lucien Castex, représentant pour les affaires publiques de l'Association française pour le nommage Internet. Internet en coopération à l'AFNIC, membre du conseil d'administration du think tank Renaissance Numérique. Florence Ponce à la préparation de ce débat comme chaque soir. Jean-Philippe Thurie à sa réalisation. Débat que vous pouvez réécouter sur notre site internet www.rfi.fr podcasté. Restez à l'écoute, RFI Soir dans 30 secondes.